Bonjour et bienvenue à vous. Un grand merci de nous rejoindre en ce mardi 18 juin 2024. Nanit Talani à Washington, la capitale américaine, pour vous présenter le monde aujourd'hui, les 7h en temps universel. Au sommaire, en RDC, la CENI rejette vivement les accusations d'irrégularité formulées par les églises catholiques et protestantes dans leur rapport final sur le processus électoral 6 mois après le scrutin. En Algérie, la population de Tiaré manifeste contre une pénurie d'eau potable qui persiste malgré les promesses du président Tebboune. En Israël, un envoyé spécial américain est arrivé pour tenter de calmer les tensions croissantes avec le Hezbollah. En Corée du Nord, Vladimir Poutine en visite officielle pour la première fois en plus de 20 ans. Nous aurons également des nouvelles économiques avec la Minute Éco et les dernières informations sportives. Et dans nos magazines, nous irons au Gabon où un nouveau genre musical, le Tiam, prend racine. Enfin, ici aux États-Unis, les droits reproductifs et la législation sur les armes à feu s'invitent dans la campagne électorale. Restez avec nous pour une analyse approfondie de ces sujets et bien plus encore. En attendant, voici le journal. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a vivement critiqué hier le rapport définitif d'observation du processus électoral publié par les églises catholiques et protestantes. Un rapport qui évoque de nombreux cas d'irrégularité 6 mois après la tenue des scrutins. Mouhamadou Oumfa pour en savoir plus.
Dans le rapport final de l'observation électorale publié lundi à Kinshasa, les deux églises disent avoir constaté de nombreuses irrégularités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des résultats des scrutins sans pour autant déclarer les élections frauduleuses. Le rapport souligne le cafouillage lors de l'attribution des sièges pour les législatives et dénonce le népotisme dans ce processus. Plusieurs politiciens ont réussi à placer les membres de leur famille dans différents postes électifs après les avoir alignés comme suppléants, a déclaré le révérend Eric Senga, secrétaire général de l'Église du Christ au Congo, principale fédération protestante. Présent dans la salle, Didi Manara Linga, deuxième vice-président de la CENI, a vivement critiqué ce rapport, affirmant que c'est une liste de ratés qui ne sont pas toujours du fait de la CENI et ne présente aucun élément comparatif par rapport aux cycles électoraux antérieurs, afin de souligner les progrès et les régressions, a-t-il déclaré. Il a rappelé que son institution n'avait pas hésité à sanctionner plus de 80 personnes impliquées dans de la fraude électorale sans tenir compte de leur rang.
Au Bénin, la justice a condamné hier à Cotonou à 18 mois de prison avec sursis 3 Nigériens arrêtés la semaine dernière au port de Semekpodi dans un contexte de brouille diplomatique entre Niamey et Cotonou. Les 3 accusés étaient poursuivis pour fausse attestation et usage de fausse attestation, mais la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a requalifié les faits en usurpation de titres et usage de données informatiques falsifiées. Tous les 3 avaient plaidé non coupables. Moumouni Adiza Ibra, la directrice générale adjointe de la société pétrolière WAPCO Niger, fait partie des personnes condamnées. Elle a notamment expliqué que son équipe était venue dans le cadre du chargement du 2e navire de pétrole avec une autorisation du ministère des Mines et de l'Eau béninois. Ils ont été arrêtés le 5 juin sur le port béninois de Semekpodi, lieu du chargement de pétrole nigérien pour l'exportation. 2 autres personnes également arrêtées au même moment avaient été relâchées vendredi. En Algérie, des manifestations et blocages de routes ont eu lieu dimanche et hier dans la région de Tiaret pour protester contre une grave pénurie d'eau potable, un problème que le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, avait promis de résoudre avant la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Le point avec John Lindon.
De nouvelles manifestations ont eu lieu à Tiared, à 280 km au sud-ouest d'Alger. Au moins 2 routes ont été bloquées par des pierres et des barricades entre Tiared et les villes voisines de Frenda et Bouchkif. Depuis mai, les cours d'eau de cette région semi-désertique et le barrage de Barkeda, seule source d'approvisionnement, sont à sec, entraînant les premières manifestations avec des pneus brûlés et barrages routiers près de Tiared. Le président Tebboune, qui n'a pas encore dit s'il sera candidat à un nouveau mandat à la présidentielle anticipée du 7 septembre, a ordonné au début du mois au ministre de l'Intérieur et des Ressources hydrauliques d'élaborer un programme de sortie de crise. Le lendemain, les deux ministres Brahim Merad et Taha Derbal se sont rendus à Tiared et ont présenté un plan pour résoudre le problème avant l'Aïd al-Adha. Vendredi, Derbal est retourné sur place pour la mise en service d'un système d'approvisionnement de la ville à partir des puits forés et raccordé au réseau. Cela a permis de résoudre le problème au centre-ville, mais pas dans d'autres quartiers.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Malaisie se prépare à rejoindre le groupe des économies émergentes des BRICS, a déclaré le Premier ministre Anwar Ibrahim dans une interview accordée à un média. Nous avons pris une décision, nous allons bientôt mettre en place les procédures formelles, nous attendons juste les résultats finaux du gouvernement sud-africain, a déclaré M. Anwar. Le groupe des BRICS comprenait à l'origine le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui lui ont donné son acronyme. Un envoyé américain est arrivé hier en Israël pour faire pression en faveur d'une désescalade avec le Liban. Un responsable israélien déclarant pour sa part que le Hezbollah a tiré plus de 5000 projectiles vers Israël depuis le début de la guerre à Gaza. Le point avec Dili Diko.
L'envoyé spécial du président américain Amos Hochstein a rencontré lundi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem quelques jours après que le secrétaire d'État Anthony Blinken a affirmé lors d'une tournée au Moyen-Orient qu'un cessez-le-feu à Gaza est le meilleur moyen de mettre fin aux violences entre le Hezbollah et Israël. Le Hezbollah a affirmé la semaine dernière avoir mené plus de 2100 opérations militaires contre Israël depuis le 8 octobre au lendemain de l'attaque du Hamas. Les attaques du Hezbollah se sont intensifiées depuis la mort mardi d'un de ses commandants, Taleb Sami Abdallah, tué dans une frappe israélienne à Jouaïa, dans le sud du Liban. Lundi, l'armée israélienne a annoncé avoir tué aussi Mohamed Mustafa Ayoub, un autre leader du Hezbollah. Samedi, l'ONU a fait part de sa profonde préoccupation en raison de cette escalade. Plus de 8 mois de violence à la frontière israélo-libanaise ont fait au moins 472 morts au Liban, la plupart des combattants, mais aussi 91 civils, d'après des données du Hezbollah et des sources officielles libanaises.
Des milliers d'Israéliens ont manifesté hier soir contre la conduite de la guerre à Gaza par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou et pour la tenue d'élections anticipées. La police israélienne a fait état de 9 interpellations, certaines liées, selon elle, à des violences contre les forces de l'ordre et indiqué que des policiers avaient été légèrement blessés. Vladimir Poutine est en visite officielle en Corée du Nord ce mardi et demain mercredi. Il s'agit de la première visite du président russe dans ce pays depuis plus de 20 ans, ce qui souligne le rapprochement en cours entre Moscou et Pyongyang. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Ce voyage a lieu 9 mois après que Vladimir Poutine a accueilli le dirigeant nord-coréen dans l'extrême-orient russe, une visite au cours de laquelle les deux hommes s'étaient couverts d'éloges, mais sans conclure d'accord, du moins officiellement. Ce sera différent cette fois. Nord-coréens et russes signeront des documents importants, a indiqué lundi aux médias russes le Kremlin, qui évoque même la possible signature d'un accord de partenariat stratégique, selon le conseiller diplomatique du président russe Yuri Ushakov. Le maître du Kremlin sera notamment accompagné de son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, de son ministre de la Défense, Andrei Bolosov, de 2 vice-premiers ministres ou encore du patron de l'agence spatiale russe, Roscosmos. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en visite à Washington, a déclaré hier que ce voyage à Pyongyang montre à quel point le président Poutine et Moscou sont dépendants des pays autoritaires du monde entier. Leurs amis les plus proches et les plus grands soutiens de l'effort de guerre russe en Ukraine sont la Corée du Nord, l'Iran et la Chine. Après la Corée du Nord, Vladimir Poutine se rendra au Vietnam les 19 et 20 juin.
Plusieurs dizaines de soldats nord-coréens ont franchi mardi la frontière avec la Corée du Sud avant de battre en retraite sous les tirs de sommation de l'armée sud-coréenne. Un acte accidentel a fait savoir l'état-major interarmé de Séoul. L'ancien premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra a bénéficié ce mardi d'une libération sous caution dans une affaire de lèse-majesté à haute sensibilité politique. Le milliardaire, âgé de 74 ans, a quitté un tribunal de Bangkok après le versement d'une caution de 12 600 euros, ont indiqué les juges dans un communiqué. L'ex-dirigeant qui a fui le pays en 2008 pour échapper à d'anciennes condamnations ayant trait à ses années au pouvoir entre 2001 et 2006 n'a pas le droit de quitter la Thaïlande, sauf en cas d'accord de la justice. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Tournons maintenant notre attention vers le segment économique. Nous laissons la place à John Lindon.
Le Parlement camerounais planche sur un projet d'accord de transport aérien avec le Canada signé en 2022 et en attente de ratification. L'objectif de ce projet est de raffermir la coopération entre le Cameroun et le Canada dans le domaine du transport aérien et dans les secteurs liés comme le tourisme, les affaires et la logistique. Selon Investir au Cameroun, le Canada abrite l'une des plus importantes diasporas du Cameroun avec environ 14 000 Camerounais résidant au Québec. Le groupe audiovisuel français Canal+, filiale de Vivendi, dont la famille Bolloré est l'actionnaire principal, a fait un pas décisif dans sa marche vers le rachat du géant sud-africain des télévisions payantes MultiChoice. Selon le site ecomatin.net, l'offre de la multinationale française a en effet été acceptée par le conseil d'administration du groupe sud-africain. Dans les tuyaux depuis des mois, ce projet de rachat est chiffré à 1,7 milliard d'euros selon la presse française. MultiChoice est valorisé à près de 2,7 milliards d'euros. Des mesures fiscales de protection sociale ont un rôle majeur à jouer pour contrebalancer les risques posés par l'IA et notamment une hausse des inégalités, a estimé le Fonds monétaire international lundi. Sans régulation, l'intelligence artificielle générative popularisée par ChatGPT et d'autres outils similaires pourrait provoquer des suppressions d'emplois chez les professions diplômées, souligne le FMI.
C'était tout pour les nouvelles économiques. Passons maintenant à notre rubrique sportive avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Des nouvelles de l'Euro 2024.
Oui, deux matchs au programme aujourd'hui. La Turquie fait face à la Géorgie et le Portugal de Cristiano Ronaldo affronte la République tchèque alors qu'il avait fini le mondial au Qatar dans la peau d'un remplaçant. Le quintuple ballon d'or est redevenu important pour le Portugal et devrait à nouveau guider les siens à Leipzig face à la République tchèque pour l'entrée en lice de la Seleção à l'Euro 2024. Hier, la Roumanie a fait vivre à l'Ukraine des débuts cauchemardesques en gagnant 3-0 à l'Allianz Arena de Munich. La Belgique est tombée devant la Slovaquie 1-0. Amin Birouk nous fait le point des matchs de cet Euro qui ont débuté vendredi dernier.
Il y a eu des impressions mitigées entre la prestation XXL de l'Allemagne avec un super maestro Toni Kroos, victoire face à des Écossais qui n'avaient pas le niveau, 5-1, mais il fallait quand même tenir son rang de pays organisateur lors de ce match d'ouverture. Entre l'Espagne qui a changé de paradigme, moins de passes, moins de jeux horizontal, plus de jeux dans la verticalité, moins de possession et plus d'efficacité devant le but, et une belle victoire face à la Croatie 3-0. L'impression que les Pays-Bas ont de la ressource, comme l'a démontré leur victoire à l'arraché devant la Pologne de 2-1. Et puis, l'impression laissée par l'Angleterre qui a démarré petitement, poussivement la compétition. Une victoire grâce à un but de Jude Bellingham face à la Serbie et une équipe qui a refusé le jeu systématiquement pendant la deuxième mi-temps, préférant laisser venir les Serbes et construisant très peu d'actions concrètes. Il y a eu quelques approximations après le but de Bellingham et une seule occasion nette, la reprise de la tête de Harry Kane sur la barre transversale. Ce qui est certain, c'est que les premiers favoris ont donné l'impression qu'ils démarraient pied au plancher dans la compétition. avec une réserve sur l'équipe d'Angleterre qui pourtant possède le plus beau réservoir du football européen et sur le papier est considéré par les spécialistes comme le favori numéro 1 dans cette compétition.
Merci Amine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani toujours en votre compagnie. Passons maintenant à nos dossiers du jour. La crise actuelle au Soudan représente une menace existentielle pour l'État, exacerbée par la violence croissante à El Fachir et dans les régions avoisinantes. Cette situation désastreuse est caractérisée par des conditions humanitaires critiques et des défis majeurs dont la protection des civils. Quels sont les principaux obstacles politiques et militaires qui entravent la résolution de ce conflit complexe et quelles stratégies pourraient être efficacement déployées pour atténuer cette spirale de violence et restaurer la stabilité dans la région ? Eric Manirakiza s'est entretenu au téléphone avec Gérard Prunier, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Le problème, c'est la survie de l'État soudanais. Parce que la bataille d'El Fachir, qui va se terminer probablement d'ici peu de jours par la victoire des Métis, c'est-à-dire de celui qu'on appelle encore le rebelle, alors qu'en fait il partageait le gouvernement avec son ennemi, le général Burhan, c'est un véritable dépiotage du pays. Et ça montre une chose, c'est l'influence des traditions coloniales. Parce que les gens disent toujours c'est une colonie britannique. Non, ça n'était pas une colonie britannique. On parlait à l'époque du Soudan anglo-égyptien. Et le mot égyptien lui-même était faux. On aurait mieux fait de dire anglo-ottoman. Parce que le Soudan, depuis 1821, et c'est un pays qui n'existait pas avant cette date, a été une colonie ottomane, c'est-à-dire de l'Empire turc. Et c'est ça qui est en train de partir en morceaux.
Quelles sont maintenant les raisons principales pour lesquelles la situation au Soudan continue de s'enliser, malgré les efforts de médiation et les résolutions internationales ?
Oui, les efforts de médiation et de résolutions internationales sont très minces. Il n'y a pas vraiment un gros souci. On fait semblant de s'en soucier du bout des lèvres, mais par exemple les conversations à Jeddah n'ont pas repris, elles étaient uniquement d'ailleurs sur le plan humanitaire et pas politique. En gros, il y a une négligence générale de la communauté internationale vis-à-vis du cas soudanais, qui est, Dieu merci pour la lucidité de M. Perriello, représente aujourd'hui au moins 150 000 morts, et pas 16 ou 20 000 comme le disent les Nations Unies.
Et quels sont les principaux obstacles politiques et militaires qui empêchent la résolution du conflit, en particulier en ce qui concerne les forces de soutien rapide et le gouvernement soudanais ?
Chacun a ramassé quelques petits groupes de milices derrière lui, mais les deux acteurs sont effectivement ceux-là. Et on ne peut pas rentrer dans l'histoire du Soudan, mais ils représentent l'un et l'autre deux morceaux de la réalité du Soudan ottoman, c'est-à-dire du Soudan du XIXe siècle, que les Anglais n'ont jamais démonté. Quand ils sont revenus en 1898, ils ont repris toutes les structures de la colonisation ottomane. Après l'élimination des islamistes qui ont essayé d'introduire un tiers point entre ce qui sont les gens de l'Ouest et les gens du fleuve, ça a marché un certain temps et en 2019, ça s'est effondré.
Gérard Prunier, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Cameroun, dans la région de l'Est, de nombreux enfants centrafricains travaillent sur les sites miniers. Il s'agit d'enfants orphelins ou issus des familles ayant fui la guerre et qui ne résident pas dans les camps de réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Certains enfants ont laissé leur vie sur ces sites miniers à la suite d'éboulements. Davantage avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Bien sûr, la mort, c'est pour nous tous. On doit partir. Mais ce n'est pas avec le Kassi. Le Kassi, c'est vraiment mauvais.
Jimmy Mama est un ressortissant centrafricain vivant à Batouri au Cameroun, à 400 km de Yaoundé. En 2021, Youssouf, son neveu âgé de 16 ans, a trouvé la mort à la recherche de l'or au village Kambélé 3, dans la région de l'Est, voisine de la République centrafricaine.
Dans la nuit, vers 4 heures, les enfants qu'elle part marcher avec eux, et ils ont marché ensemble, c'est les enfants-là qui sont venus. Mais coincé la porte vers 3 heures du matin, il m'a dit que voici, la trou est tombée sur Youssouf. On est en train de creuser. Bon, maintenant, c'est difficile pour nous. On n'a pas trouvé la corde jusqu'à maintenant. On m'a arrivé et nous sommes allés creuser avec eux. Et vers 4 heures, 5 heures, on a trouvé la corde.
C'est sur le site minier d'une société chinoise dénommée Menchenu Wang Woping, laissé ce jour-là à ciel ouvert, que le jeune centrafricain Youssouf est décédé. Il y a 2 ans, un procès s'est ouvert contre cette société chinoise au tribunal de Batouri, à plus de 400 km de Yaoundé. Dieudonné Dissi, avocat de la victime.
Du point de vue juridique, il faudrait que les sociétés chinoises comprennent qu'il y a un code minier qui doit être respecté au Cameroun. Si l'administration des mines assumait pleinement ses responsabilités dans les chantiers miniers, on ne se retrouverait pas avec ce genre de situation. Heureusement que la gendarmerie nationale essaye de les supplier dans leur manquement. C'est un message fort et qui a envoyé à tous les autres expatriés, y compris les locaux qui s'associent avec ces expatriés, que leurs actions ne peuvent pas rester impunies.
Mais l'on retrouve encore de nombreux enfants centrafricains à la recherche effrénée de l'or sur les chantiers miniers dans la région de l'Est. L'un d'eux témoigne.
J'ai pu creuser la terre, j'ai trouvé cailloux, j'ai concassé, j'ai pas, il écrase. Je lave avec mercure. Quand j'ai trouvé ce que j'ai donné, même une bichette, même 5 bichettes que je mange avec.
Jospin a, quant à lui, quitté la Centrafrique en 2015. Il avait alors 7 ans. Aujourd'hui, il dit gagner sa vie sur un site aurifère au village Mali, dans la région de l'Est.
Ça veut dire ici au sanctuaire. C'est bon, le loge, si je paye, alors tu ne payes pas. Parce que le loge, ça dépend de charge. Quand tu as la charge, ça paye. Ça paye donc même si c'est 700 000 ou 700 000. Quand tu n'as pas la charge, ça ne paye pas.
Les autorités camerounaises tente d'endiguer le phénomène du travail des enfants sur les sites miniers dans la région de l'Est. Diada Yakuba, préfet de la KDI, dont la localité de Batouri est le chef-lieu.
Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique a prescrit, n'est-ce pas, l'introduction de ces enfants dans les sites miniers. J'ai demandé donc à toutes les autorités qui sont au niveau des arrondissements d'appliquer cette mesure.
Ces 7 dernières années, les organisations de la société civile locale affirment qu'au moins 200 personnes sont mortes sur les sites aurifères dans la région de l'Est, parmi lesquelles des enfants de nationalité centrafricaine. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Gabon, comme partout sur le continent, l'économie informelle est presque au cœur de l'activité des grandes villes. Malgré de nombreuses opérations municipales contre l'occupation anarchique des espaces publics, vendeurs ambulants, démarcheurs de grandes enseignes ou les mototaxis restent maîtres du terrain à Libreville. Sur place, le reportage de notre correspondant Ismaël Obianzi.
Assis sur un banc devant l'arrêt bus du carrefour Lyonba à Libreville, Mansoura vend des jus de fruits. Dans sa quête du chiffre d'affaires, la Camerounaise de 38 ans n'est pas à l'abri des difficultés.
Les jus qui sont en manque, et la hausse des prix des jus aussi. Sans oublier les contrôles et et la mairie aussi. La mairie nous embête beaucoup, on a tendance à dire nous dérange, c'est de trop. Se retrouver dans un petit commerce à payer 1800 de tickets par jour, c'est énorme.
Des pousseurs de brouettes dans le grand marché situé juste à côté, aux démarcheurs de clients pour grands magasins à Libreville, le travail informel reste selon certains un moyen de survie. Steve, 25 ans, se sent bien dans la peau des débrouillards.
Je prends mes clients, j'amène au magasin. Quand ça valide, j'ai un petit quota, mes cochers, un peu prenant. Je fais 300 par client, 250. Ça dépend du nombre de clients que tu aurais. Ça fait ta journée. Au lieu de voler, braquer.
La seule certitude des acteurs de l'économie informelle, c'est l'incertitude. À défaut de croiser les bras, beaucoup se sont créés des emplois qui n'existaient pas encore. C'est le cas de Yacine, devenu photographe ambulant.
En fin de mois, je peux sortir avec 70-80. Si je l'épargne vraiment, je Il n'y a pas de défense à faire.
Je suis là, je m'amuse avec mes collègues, je me débrouille. Je rentre chez moi à n'importe quelle heure, en tout cas, je ne dérange personne.
Avec plus de 40% de jeunes chômeurs selon les estimations officielles, le marché gabonais de l'emploi connaît une crise sans précédent. Pour contourner la difficulté, Daniel et l'un de ses amis étudiants en logistique et transport vendent des essences de parfums dans les rues de Libreville.
Le but c'est cela, c'est pour avoir un capital pour atteindre acheter le taxi. Ce business au début était difficile parce qu'on fait du porte-à-porte, on fait de maison en maison, on marche la difficulté à le soleil, mais le plus important c'est d'avoir un petit revenu, quelque chose dans la poche, il ne faut pas rester à la maison. Bon, parmi les risques, il y a la mairie qui peut nous prendre déjà.
Quelques incompréhensions avec des clients malhonnêtes, j'imagine.
Bien sûr, des fois, il y a d'autres qui peuvent vous payer sur place. Ils vous demandent de donner un bon. Après, tout le temps, il faut courir au téléphone pour l'appeler, pour appeler. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est le risque du métier. Hein.
Le secteur informel représente 41% du produit intérieur brut gabonais et emploie un grand nombre de personnes vivant au jour le jour d'une activité occasionnelle. Ismaël Obionzé, Libreville, pour VOA Afrique.
Au Bénin, la lutte contre le travail des enfants piétine malgré l'existence d'un arsenal juridique sur la protection des enfants. Au lieu d'aller à l'école, certains enfants continuent d'être exploités sur les chantiers de construction, au marché et dans les ménages. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adondé.
La banalisation du phénomène du travail des enfants par certains adultes au Bénin est en totale contradiction avec le code de l'enfant voté depuis 2015. Sœur Triana Borsani fait partie de la congrégation des sœurs salésiennes de Don Bosco. Depuis de nombreuses années, elle se bat pour protéger les enfants.
Les enfants qui travaillent au Bénin, il y en a trop. On ne se pose plus la question, mais cet enfant-là, pourquoi il est là? Il doit être à l'école.
En dehors des travaux familiaux traditionnels, les enfants sont employés comme domestiques pour faire du petit commerce ou sont envoyés sur des chantiers pour des travaux dangereux dans les domaines de l'agriculture, la maçonnerie, la soudure et autres. Jeanne Laroy se bat elle aussi depuis de nombreuses années pour donner un autre destin aux enfants placés dans les ménages.
Ces enfants passent sous nos yeux, vous et moi, et nous les regardons sans pouvoir rien faire. C'est vraiment dramatique. Moi, j'en appelle à la responsabilité politique parce que les ONG à elles seules ne peuvent rien faire.
Selon les résultats de l'enquête réalisée par l'INSTAD, le taux de prévalence nationale en matière du travail des enfants est passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2022. Malgré cette avancée, le phénomène reste tenace en milieu ouvrier.
Pour apprendre chez nous, il faut avoir au moins 16 ans. La majorité sont allés à l'école, au moins le niveau 3e.
Dans notre organisation professionnelle, nous vulgarisons ça et nous encourageons les patrons d'ateliers, d'instituts, de ne pas prendre moins. Le minimum, c'est quand même l'acte de naissance. Et sur l'acte de naissance, on peut bien voir l'âge de l'individu.
Au sein de la population, tout le monde se dédouane ou ferme les yeux devant le phénomène.
Souvent, c'est le milieu ou l'encadrement des enfants qui fait que les enfants bifriquent souvent dans des domaines où c'est les parents même qui les poussent.
Et chez autres, les parents a bien encadré leurs enfants, leur laisser le choix de faire ce qu'ils veulent.
Au Bénin, le travail des enfants constitue une violation des droits fondamentaux de l'homme. Esther Diossa est administratrice de l'action sociale.
L'enfant ne doit pas travailler avant l'âge de 14 ans minimum. Il faut nécessairement qu'il ait 14 ans et qu'il ait eu quand même à finir le primaire, c'est-à-dire faire de la maternelle jusqu'en classe de CM2. Il peut obtenir le CEP ou non, mais avant qu'un enfant ne travaille, il faut ces préalables-là. On ne doit pas le contraindre à faire des activités contre sa volonté, par exemple l'obliger à aller s'asseoir dans une boutique ou bien aller vendre dans les marchés ou carrément être utilisé à des fins de films pornographiques et tout ce qui va avec.
Le Bénin ambitionne d'atteindre l'objectif de développement durable en matière de travail des enfants et devra prendre des mesures immédiates pour éliminer les pires formes de travail des enfants d'ici 2025. De Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous et de rester fidèles au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Nanit Talani à la réalisation, Firmin Max Kouyaouida. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voaafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.